à Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel, mais aussi à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Mali, plus d'une vingtaine de civils tués dans l'explosion d'une mine à Boni.
À 8 km de Boni, la mine a explosé. Il y avait un survivant qui est arrivé au dispensaire, seulement il a perdu la bouche. Les 26 passagers, le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est mort.
Témoignage d'un habitant de Boni dans le centre du Mali. Au Sénégal, avancé dans l'enquête sur le massacre en Casamance, le cerveau de ces meurtres est en détention. Au Tchad, la police a quadrillé N'Djamena pour empêcher une manifestation contre la vie chère et l'austérité. En Suisse, le président américain est au forum de Davos, mais son slogan « L'Amérique d'abord » ne fait pas l'unanimité. Dans la Minute Éco, le dollar qui plonge. Et bien sûr, ne ratez pas les derniers résultats de la NBA dans les sports. Mais tout d'abord, le journal. Et à la une de l'actualité, le Mali, un véhicule de forains a sauté sur une mine, faisant au moins 26 morts dans le centre du pays. Le véhicule venait du Burkina Faso pour le marché hebdomadaire qui se tient aujourd'hui à Boni. Pour un témoignage, Modibo Dembélé a joint sur place Amboura Tamboura, un habitant de Boni.
Le véhicule qui quittait Burkina pour se rendre au marché de Boni, à 8 km de Boni, la mine a explosé. Il y avait un survivant qui est arrivé au dispensaire, seulement il a perdu la mouche. Les 26 passagers, tout, le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est mort.
On aura appris qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire le décompte des biens appartenant aux personnes décédées.
On vient d'appeler le CV, il vient de rentrer. Je le vois rentrer à la mairie pour voir avec le maire et les conseillers, d'autres conseillers pour compter le nombre de l'argent. Parce qu'il disait 1 800 000 et poussière là-bas. Ils sont là à les compter. Quoi.
Et est-ce que vous avez une idée par rapport à l'identité des personnes qui sont décédées?
Il y a les gens de Wurofassi, 8 personnes, et les gens de Nisenata, 6 personnes, Tamasek, 10, le chauffeur et l'apprenti.
Et l'armée malienne a annoncé avoir tué 5 assaillants et perdu 2 militaires en repoussant 2 attaques de djihadistes présumés dans le centre du pays. Selon une source militaire, une des positions a été attaquée, N'Gom Makoura, au mortier. Il n'y a pas eu de victimes. Au Sénégal, l'homme soupçonné d'avoir planifié le massacre de 14 jeunes en Casamance et 15 autres ayant participé à la tuerie font partie des 24 suspects arrêtés. Un procureur a fait le point sur l'enquête. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Alioune Abdoulaye Silla, procureur des Iguinchor, l'attaque a été planifiée et exécutée par une personne pour le compte de 2 villages. Il a ajouté qu'elle a été menée sous les ordres d'un lieutenant d'une faction rebelle. Monsieur Silla n'a toutefois pas donné de détails sur le village ou la faction rebelle concernée. Il a souligné qu'une partie des armes et munitions serait venue des bases d'un cantonnement rebelle. Il a aussi confirmé que celui qui a planifié l'opération a été placé en garde à vue avec 15 autres personnes qui ont pris part à la tuerie. Le colonel Issa Diak de la gendarmerie a conclu à une implication directe des suspects en détention. 14 jeunes qui cherchaient du bois dans la forêt de Bayotte ont été tués le 6 janvier. Depuis, 16 personnes, dont un journaliste, ont été inculpées pour assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes. 8 autres ont été interpellés le week-end dernier.
Au Tchad, malgré l'interdiction formelle des autorités en charge de la sécurité publique, une partie de la société civile a maintenu son appel à manifester, une manifestation pacifique pour protester contre les mesures d'austérité, la hausse du prix de carburant et l'augmentation du taux d'inscription des étudiants tchadiens et bien d'autres mesures. Mais elle a été réprimée par la police. André Komadingar nous fait le point de N'Djamena.
Les espaces publics, les terrains de sport et tous les carrefours de la capitale sont occupés tôt le matin par les éléments de la police, de la gendarmerie et ceux de la garde nomade, y compris les chiens policiers pour contenir un éventuel débordement. Ceux qui ont tenté de faire face aux forces de l'ordre ont été bastonnés. D'autres sont arrêtés puis libérés à la mi-journée. C'est le cas du président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnael Nili Versinis, qui a été arrêté et bastonné dans la voiture en route vers le commissariat puis enfermé quelques heures avant d'être libéré. 4 membre militant de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains serait également entre les mains de la police. Le collectif des jeunes cadres indiens du MPS parti au pouvoir soutient cette action. Le porte-parole du dit collectif, Frank Nakingar, donne les raisons.
Les denrées alimentaires sur le marché augmentent pendant qu'on diminue le salaire, c'est ce qu'on ne comprend pas. L'essence, le pétrole, on le produit maintenant. Pourquoi on l'augmente? Pour une fois, il faut quand même qu'on laisse le peuple s'exprimer pour voir le degré de mobilisation des gens.
Jim Ewiché, directeur des publications du journal Aluida, un journal en ligne qui a tenté de couvrir cette manifestation, a été pris à partie par les policiers. Les établissements scolaires sont restés fermés et l'Internet est coupé à minuit et rétabli ce jeudi à la mi-journée. André Kodmadingar Ndiamena, VO Afrique.
Kinshasa a fermé l'agence de coopération belge et la maison Schengen qui représente 17 pays de l'Union européenne. Cette mesure est un épisode de plus dans le bras de fer qui oppose la République démocratique du Congo à la Belgique. Après la répression de la manifestation du 31 décembre dernier, Bruxelles avait annoncé une révision de sa coopération avec les autorités congolaises jusqu'à l'organisation d'élections crédibles. Et toujours en République démocratique du Congo, un prêtre catholique, l'abbé Robert Massinda et une autre personne enlevée dans l'est du pays ont été relâchés 48 heures après par des ravisseurs non identifiés, selon l'évêque du diocèse de Butembo-Beni dans la province du Nord-Kivu. Au Gabon, la justice saisie pour torture présumée sur un ex-député du PDG, Bertrand Zibi Abégué, détenu depuis plus d'un an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016. Bertrand Zibi Abégué aurait été torturé par des agents des services pénitentiaires qui l'ont flagellé à l'aide de câbles électriques ou de tuyaux de plomberie, selon un avocat qui a voulu garder l'anonymat. Les États-Unis ont appelé aux Nations Unies à l'imposition d'un embargo international sur les armes au Soudan du Sud, où un énième cessez-le-feu a volé en éclats le mois dernier. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré devant le Conseil de sécurité que le gouvernement du président Salva Kiir prouve de plus en plus qu'il est un partenaire inapte à mener des efforts de paix. Et au Nigeria, vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui a déjà fait 45 morts depuis septembre dernier. La vaccination a commencé et permis jusqu'ici de vacciner 3 millions de personnes. L'objectif de cette campagne, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, vise à éliminer la fièvre jaune du Nigeria d'ici à 2026.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et on le disait dans les titres, Donald Trump est arrivé au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Il est le premier président américain en exercice à se rendre à ce sommet depuis Bill Clinton en 2000. Les précisions avec Dilly Dico.
Plusieurs délégations à Davos anticipent des désaccords si Donald Trump choisit de mettre en avant l'Amérique d'abord dans son discours à la clôture du forum demain, vendredi. Borj Brende, président du forum, dit croire fermement au dialogue et pense que le fait que le président des États-Unis soit présent est un signe d'ouverture à une discussion sur une mondialisation plus équitable. Le président Donald Trump a récemment mis en place des taxes sur plusieurs produits d'importation et demandé la restructuration de certains accords de commerce. Mardi, il a signé un décret imposant de lourdes taxes sur l'importation des machines à laver et des panneaux solaires en précisant que les États-Unis n'allaient plus se laisser faire. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Washington veut rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial.
Pas d'alliance stratégique Washington-Moscou dans la Syrie en guerre, selon Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants. Il a ajouté qu'il y aura peut-être au cas par cas des convergences tactiques. En Syrie, la Russie est alliée au régime du président Bachar al-Assad, appuyée par l'Iran et le Hezbollah libanais. Washington a de son côté soutenu des groupes rebelles opposés au président Assad, en plus de son appui à une force kurdo-arabe syrienne engagée dans la lutte contre le groupe État islamique. Par ailleurs, les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris ce jeudi à Vienne pour 2 jours sous l'égide de l'ONU dans un contexte de regain de violence sur le terrain. Les précédents tours de négociations s'étaient soldés par un échec, les deux parties refusant de se parler directement sur fond de divergences, notamment sur le sort du président Bachar al-Assad. Un porte-avions américain devrait accoster au Vietnam en mars. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion d'une visite historique à Hanoï du ministre américain de la Défense, Jim Mattis, deuxième étape d'une tournée en Asie. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, mais les prétentions chinoises sont contestées par d'autres riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a mobilisé près de 7 milliards de dollars de recettes fiscales et douanières en 2017. Abidjan a enregistré un excédent de 304 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Cette année, l'objectif global est de réunir plus de 7 milliards de dollars. Ces recettes permettront de financer en partie le budget qui s'élève à plus de 12 milliards de dollars. Le pays a aussi prévu de lever plus de 2 milliards de dollars sur les marchés financiers régionaux de l'UEMOA et international cette année. Stratégie de croissance et de transformation à Madagascar à l'horizon 2030, baptisée Finzatrata 2030, émergence et renaissance, qui fixe comme priorité l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition. Ce plan ambitionne de créer 5 millions d'emplois et multiplier le produit intérieur brut par 3,5. Les marchés financiers ont été pris de course mercredi. Le secrétaire américain du Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Dans la foulée, le billet vert a perdu 1% et l'euro a grimpé au plus haut depuis plus de 3 ans. Washington vise à rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial. Cette démarche tranche avec la traditionnelle doctrine américaine.
L'heure de notre page sport. Bonsoir Nicolas Pinot.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
Et oui, on attend les quarts de finale, ils commencent ce week-end dans le royaume chérifien. A noter samedi, le pays organisateur, le Maroc, qui a terminé premier du groupe A face à la Namibie, deuxième du groupe B. Ce match aura lieu au stade Mohamed V à Casablanca. Toujours samedi, la Zambie, qui a terminé première du groupe B, affrontera le Soudan à Marrakech. Enfin dimanche, le Nigeria face à l'Angola, ce sera à Tanger. Et puis le Congo-Brazzaville qui a terminé premier du groupe D, qui affrontera la Libye, ce sera toujours dimanche à Agadir.
Tennis Open d'Australie, le premier finaliste connu chez les hommes.
Mary Selic a bien négocié son duel face à Kyle Edmund en demi-finale de cet Open d'Australie. Le score 6-2, 7-6, 6-2. Le Croate va jouer sa troisième finale en Grand Chelem et chercher un deuxième titre après l'US Open en 2014. Il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale demain entre Roger Federer et le jeune prodige sud-coréen Chung.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston n'a pas fait de détails face à son grand rival texan, Dallas, surclassé 104 à 97. Boston a renoué avec la victoire après 4 défaites de suite. Les Celtics qui s'imposent sur le parquet des Sur le parquet des Clippers de Los Angeles, 113 à 102. À l'ouest toujours, le duel entre les frères Gasol a tourné en faveur de Poe et de San Antonio. Les Spurs, sans LaMarcus Aldridge, laissés au repos, ont dominé Memphis, 108 à 85. Utah s'est imposé à Détroit, 98 à 95. Enfin, l'équipe en forme du moment, Philadelphie, a submergé Chicago, 115 à 101.
Et c'est la fin de cette phase sport. Merci beaucoup Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Nations Unies menacent le gouvernement malien et les groupes armés dans le nord de sanctions pour le non-respect des accords signés en 2015. Le Conseil de sécurité a donné jusqu'à la fin mars 2018 aux deux parties pour faire des avancées dans l'application de l'accord de paix. Blanche Sanou a recueilli la réaction de Hamay Mahaman Maïga, vice-président des Jeunes Patriotes de Gao.
Le gouvernement malien n'est pas seulement à être accusé de cette histoire. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut vivre une rébellion et en même temps le djihadisme et chercher à combattre, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ces deux fronts. C'est difficile pour un gouvernement, ça, qu'on soit très clair là-dessus. Aujourd'hui, ce que l'ONU est en train de demander, qui est de menacer le gouvernement ou bien les groupes armés, c'est très bien, mais ce n'est pas le gouvernement qu'il faut réellement menacer, mais plutôt les groupes armés, les détenteurs de ces armes-là sur le territoire. Parce que ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de violer sur le terrain, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de déposer et déposséder les gens de leurs biens, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de tirer à tort à travers des gens, mais certaines de ces actions-là ont été faites sous les yeux de ceux qui sont venus nous aider. Donc c'est pour vous dire que réellement aujourd'hui, c'est bien qu'ils soient des hommes, parce qu'eux-mêmes, ils en ont perdu beaucoup d'hommes dans leur mission de la paix, que l'ONU n'a jamais connue, si ce n'est pas au Mali. Donc nous sommes vraiment fiers qu'ils comprennent que leur faiblesse, là, de rester dedans, il faut changer de fusil de poids, il ne serait pas bon d'être tout le temps faible.
Pensez-vous que les élections présidentielles puissent avoir lieu en juillet prochain?
Aujourd'hui, tous les Maliens, ils doivent le savoir que depuis la première fois où on a eu à faire les élections après 2012 pour élire Ibrahim Boubacar Keïta, qui est notre président aujourd'hui, que les élections n'étaient pas possibles au Mali. Parce que de un, quand tu prends le territoire, à partir d'une large majorité de la région de Tombouctou, de Kidal, de Gao, quand tu prends même le cercle, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas une armée nationale pour garantir ces élections, il n'y en a pas. C'était des élections, on peut dire en toute sincérité, en toute honnêteté, qui devraient être une élection où il faut mettre tous les composantes de la société civile dans cette histoire de gestion du pays pour pouvoir préparer un référendum après le référendum passé aux élections présidentielles. En toute vérité, on n'a même pas une constitution qui va nous garantir cela. Cette constitution qu'on a de 91 est vraiment obsolète. Donc vraiment, moi, personnellement, ce que je souhaiterais quand même, en tant qu'activiste, je vais le dire, les hommes politiques maliens, ils n'ont qu'à être corrects, ils n'ont qu'à être honnêtes et dire la vérité au peuple malien. Les peuples maliens doivent savoir qu'il ne peut pas avoir des élections crédibles parce que l'armée nationale n'est pas partout. Ça, c'est de un. De deux aussi, comment est-ce qu'on appelle, l'autorité de l'État ne se trouve pas partout. Les commandants de cercle et autres, là, ils sont dans des régions proches de leur zone. Ils ne peuvent pas avoir d'élections crédibles. Il y a les djihadistes un peu partout. Il y a la rébellion un peu partout. Il faut que les gens se mettent ensemble pour quand même combattre une seule chose. On ne peut pas combattre tous les rébellions et les djihadistes en même temps organiser une élection. C'est faux. Ce n'est pas possible.
C'était Hamay Mahaman Maïga, vice-président des Jeunes Patriotes de Gao.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, le chef rebelle du mouvement des forces démocratiques de Casamance, Salif Sadio, menace de rompre la trêve si l'armée poursuit ses opérations dans la région. Les militaires sénégalais ratissent une zone où opère un autre chef de la rébellion après l'assassinat de 14 coupeurs de bois. Alors, faut-il prendre cette menace de Salif Sadio au sérieux? C'est la première question qu'Abdourahmane Dia a posée à Abdoulaye Sambou, journaliste basé à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal.
Oui, il faut la prendre au sérieux, d'autant plus que Salif Sadio est réputé être l'un des chefs de guerre le plus féroce et disposé en tout cas à dialogue. Depuis quelques années, c'est quelqu'un qui est retranché autour de sa zone, qui fait rarement de sorties et qui, quand il parle, justement, ce sont des paroles qu'il faut prendre au sérieux. D'autant plus que depuis quelque temps, l'armée pilonne un peu les bases de ce genre toute bagarre. Les vagues supposées être les zones où a eu lieu justement le massacre des 14 personnes au milieu de cette zone-là.
L'armée mène ses opérations dans la zone où opère, dit-on, l'autre chef de guerre, César Atout Badiat. Oui. Et pourquoi cette sortie de Salih Sadio selon vous?
Je pense que Salih Sadio essaie aussi de montrer que quelque part, lui aussi, il existe. Parce qu'au lendemain justement de ce massacre-là, le MFPC a sorti un communiqué dans lequel il précise que le MFPC est loin, très loin de ce massacre-là. Depuis lors, c'est vrai, il y a eu plusieurs arrestations qui ont été opérées. Alors, c'est vrai que Salih Sadio, il est loin de cette zone-là, mais Salih Sadio, comme lui, il se proclame comme étant le chef d'état-major général, justement, de tous ces combattants du mouvement des forces démocratiques de la Convergence. Donc, il essaie aussi un peu de montrer qu'il est là et qu'à tout moment, il peut aussi brandir ses armes contre, justement, l'armée sénégalaise.
Dans ce climat-là, quelles sont les chances de poursuite du processus de paix qui se déroule à Rome en ce moment?
Oui, c'est là, justement, la grosse interrogation. Vous savez, on est resté depuis pratiquement 5 ans sans remous au niveau de cette zone-là. Est-ce que le MFDC ne va pas continuer justement à réclamer que les armes se taisent avant de continuer le processus de paix, encore que le chargé de mission Oumar Hampoury Bodian a été arrêté et placé sous mandat de dépôt? Tout cela vient compliquer en tout cas le processus de paix à mon avis.
Et les populations, comment est-ce qu'elles voient tout cela? Est-ce qu'il y a une inquiétude d'une reprise des confrontations directes entre le MFDC et l'armée sénégalaise?
Mais c'est l'inquiétude, hein. C'est l'inquiétude parce que quand même depuis 5 ans, on n'a pas connu ça. Depuis 5 ans, il y a eu une accalmie dans cette région, surtout que c'est la période des récoltes.
C'était le journaliste sénégalais Abdoulaye Sambou, joint à Ziguinchor.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président a-t-il changé les États-Unis? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Burkina Faso a créé des caisses spéciales pour la mise en œuvre d'une loi sur l'assurance maladie universelle votée en 2015. Le nouveau système de santé, qui sera lancé cette année, prévoit d'étendre progressivement la couverture maladie à tous les Burkinabés. Nathalie Barge a joint Siaka Koulibaly, acteur de la société civile.
Il faut déjà dire que ce projet n'est pas un nouveau projet et plusieurs organisations de la société civile qui travaillent sur le sujet avaient demandé son opérationnalisation il y a déjà un certain temps de cela. Alors, le gouvernement expliquait qu'il travaillait sur ces modes de financement de cette assurance maladie, argument que l'on trouvait assez léger dans la mesure où, essentiellement, les cotisations sont assurées par les bénéficiaires eux-mêmes, et d'une manière ou d'une autre, par des cotisations, soit prélevées directement dans le salaire, soit prélevés par des versements qui sont opérés par ceux qui ont besoin d'accéder à l'assurance universelle. Maintenant, on attend de voir le projet final présenté par le gouvernement, quelles seront les applications, et sans doute que cela va donner lieu encore à quelques négociations avec les organisations sociales en vue de parfaire le document et le projet de l'assurance anti-universelle.
Alors sur le mode de fonctionnement, on parle notamment d'intégrer les mutuelles dans le système public de santé. Est-ce que c'est une bonne initiative selon vous?
Les mutuelles auront essentiellement pour but de recevoir les cotisations et de s'assurer que les prestations des soins de santé soient effectivement accessibles aux bénéficiaires qui auront souscrit à l'assurance santé. Donc c'est plus un travail d'organisation, un travail administratif qui va venir compléter ce que l'État pourrait faire à la matière et qui pourrait être un travail de surveillance, la qualité des soins prodigués et autres. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir un mécanisme subsidiaire de solidarité qui permette aux mutuelles de travailler aux côtés des services de l'État.
Et est-ce que ce futur système d'assurance va permettre réellement, dans le temps, aux personnes très démunies de pouvoir bénéficier d'une assurance gratuitement?
Ah, si on applique effectivement les principes connus en la matière, je pense que cela va être une très grande assistance aux personnes démunies. Dans la mesure où dans le pays voisin au Ghana à côté, cette assurance fonctionne jusque dans le dernier village avant la frontière burkinabé. Et on sait que dans les hameaux de culture, dans les villages, les populations arrivent à bénéficier de l'assurance santé. Donc il n'y a aucune raison que le Burkina Faso cela ne puisse pas être disponible, en particulier pour les personnes les plus démunies. Et je pense que ça aussi, ça peut faire partie des échanges, des négociations que les organisations sociales, en particulier les mutuelles, vont mener avec le gouvernement.
Siaka Koulibaly, acteur de la société civile au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Forum économique mondial se tient à Davos, en Suisse. Les défenseurs du libre-échange rivalisent avec le protectionnisme américain, cher au président Donald Trump, qui est sur place. Pour savoir la genèse et les enjeux de Davos, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli de l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Ce forum, en fait, est quelque chose de beaucoup plus large que Davos. C'est le Forum économique mondial et Davos est la réunion annuelle. Et participent à ce forum tous les acteurs économiques qui le souhaitent, en termes clairs, les entreprises qui sont prêtes à payer la cotisation.
Pourquoi le choix de Davos?
Tout simplement parce que le Forum économique mondial a été créé en Suisse et par conséquent que son créateur, M. Schwab, a choisi très logiquement une ville relativement attractive, pour le coup en Suisse, une station de sport d'hiver dans les Alpes, pour organiser son forum et faire venir et attirer autant d'entreprises et de représentants de la presse, des intellectuels, mais aussi des politiques dans un lieu relativement paradisiaque, en plein mois de janvier. C'est une station d'ailleurs toujours aujourd'hui de sport d'hiver assez huppée. Donc il y avait également des hôtels, il y avait des structures hôtelières qui pouvaient accueillir toutes ces entreprises et toutes ces personnes qui voulaient participer à Davos.
Comment détermine-t-on les pays qui participent à ce forum?
En fait, le forum de Davos, ou le forum économique mondial, a été mis en place au début des années 70, dans une période des années 70 où les pays capitalistes, on est en pleine guerre froide, les pays capitalistes entrent dans une période de crise et de doute, et ce forum visait à discuter de l'avenir du capitalisme, discuter de l'avenir de ce système libéral, essayer de trouver des solutions aux différents problèmes. Donc on est vraiment dans un forum de discussion, et c'est à ce titre qu'au-delà des entreprises qui participent financièrement, on invite un certain nombre de dirigeants politiques, voire aussi des stars diverses et variées, et des représentants des ONG, du monde universitaire, parce que tout ce monde a besoin de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de discuter des grands défis qui se posent au système économique, voire aujourd'hui aux relations internationales dans le monde.
Justement, quels sont les enjeux?
Alors, on prend pas de décision à Davos. On est vraiment là pour discuter, pour échanger les idées qui sont en vogue, les idées qui se développent, les initiatives qui peuvent être prises.
Y a-t-il un intérêt particulier pour les Africains?
C'est déjà une bonne question qui est très compliquée. Davos n'est pas un forum où on décide en particulier d'investir ou d'aller soutenir un pays en développement. C'est un forum où on échange et où on négocie. Et on négocie entre gens puissants, entre gens riches, donc forcément entre chefs d'entreprise et parmi les plus grandes multinationales de la planète. L'Afrique est assez peu représentée. Alors il y a souvent des déclarations d'intention. C'est pas Davos qui va permettre à l'Afrique de se développer durablement.
Sylvie Matelli, économiste à l'Institut des Relations internationales et stratégiques à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sims Lumami, Mr Zourniak à la console, mise en onde, Raissa Gérondin à la présentation. Excellente suite de programme.